Il est entre 18h15 et 18h30 sur Jet FM. Il est à peu près l'heure d'écouter Retransmission.
Retransmission. L'émission qui permet de découvrir des projets sonores de créatrices et créateurs indépendants. Aujourd'hui dans Retransmission, nous allons écouter la première partie du cinquième épisode de la série Les Givrés d'épaule réalisée par Oriane Laroumiguière. Heidi Sevestre, sentinelle du climat.
Pendant tout le début de l'expédition, les 15 premiers jours, on a subi de loin les pires conditions météo que j'ai jamais eues au Svalbard. Donc tempête après tempête après tempête.
Les givrés.
Les givrés.
Les givrés. Si toute la glace du pôle Nord fond, est-ce qu'on aura des pieds dans l'eau? Les givrés d'épaule.
Les givrés d'épaule.
Les givrés d'épaule, le podcast qui explore les zones polaires.
Alors, je m'appelle Heidi Sevestre, je suis directrice de communication scientifique et coordinatrice de projet. J'ai 33 ans et je suis d'Annecy, je suis haute-savoyarde. J'ai grandi dans les montagnes, ça c'est... c'est mes montagnes, c'est mon écosystème et ça m'a faite quoi. C'est vraiment ce qui m'a poussée à devenir, à essayer de me rapprocher encore plus des montagnes, encore plus des glaciers, ouais.
J'ai rencontré Heidi en août 2021 chez Zala Annecy. J'étais très impatiente de m'entretenir avec elle. À 33 ans, c'est une personne de référence en France et à l'international lorsque l'on parle de dérèglement climatique. Elle est régulièrement invitée des plateaux de télé, des émissions de radio et de grands événements comme la COP26 qui s'est déroulée en Écosse en novembre dernier. Glaciologue de formation, elle vulgarise avec talent la science. Et le grand sourire qu'elle affiche en permanence, même pour nous annoncer les pires nouvelles, est souvent désarmant. Je m'appelle Oriane Laroumiguière, je suis journaliste. Et dans ce podcast, je vous emmène à la découverte des zones polaires, à la rencontre d'humains passionnés de ces régions, qui arpentent, décryptent et analysent ce qu'il se passe là-haut, ou là-bas, ça dépend où l'on se situe. Bienvenue dans les Givrés d'épaule. Dans ce nouvel épisode, je vous emmène au Svalbard, un archipel norvégien situé en Arctique, à 1000 km du pôle Nord. C'est là qu'Heidi Sevestre découvre pour la première fois les régions polaires. Alors étudiante en licence de géographie, elle va passer 6 mois dans cet endroit unique au monde. C'était en 2008, et c'est une première rencontre qui va la marquer durablement.
À l'époque, j'étais pas très loin d'ici, à côté d'Annecy, à l'université, et on avait cette opportunité de passer 6 mois à l'étranger. Et en fait, tous mes potes essayaient d'aller à un endroit relativement proche. Donc mes potes sont allés à Londres, à Barcelone, beaucoup à Turin aussi. Et moi, écoute, un de mes meilleurs amis m'avait parlé d'une université la plus au nord du monde. Une université qui était au Spitzberg. Et à l'époque, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit dont il me parle? Déjà, qu'est-ce que c'est que le Spitzberg? Ça me rappelait vaguement quelque chose, mais j'ai dû faire quand même mes petites recherches. Et là, écoute, je suis allée sur Google Images, j'ai cherché Spitzberg Université, et là, c'était la boîte de Pandore, quoi. C'était que des images extraordinaires de glaciers, de neige, de montagnes, et au milieu de tout ça, t'avais une université. Alors le Spitzberg, c'est l'île principale d'un archipel qui s'appelle le Svalbard. Et en France, on utilise plutôt le mot Spitzberg pour nommer en fait l'archipel tout entier, mais le vrai nom, c'est le Svalbard. Et le Svalbard, c'est un endroit qui appartient à la Norvège et qui est en fait à mi-chemin entre le nord de la Norvège et le pôle Nord. Donc si vous prenez une carte du monde et que tu regardes par exemple le Groenland, et donc si tu montes au nord du Groenland et tu regardes à l'est, tu vas tomber sur cet archipel extraordinaire qui est donc le Svalbard. Alors crois-moi, une fois que j'ai vu ces images-là, je me suis dit, mais il n'y a rien à faire, quoi. Il faut à tout prix que je passe mon semestre Erasmus là-bas. Quoi qu'il en coûte, quoi, j'irai. Et à l'époque, c'était mission impossible. Il n'y avait pas du tout de partenariat entre mon université en France et cette université au Spitzberg, sur l'archipel du Svalbard. J'ai un peu saoulé tout le monde, j'ai vraiment rien lâché, et je leur ai dit, écoutez, s'il faut que je dorme devant votre bureau tous les jours pour que ce partenariat ait lieu, je le ferai. S'il faut que je nage jusqu'au Svalbard, je le ferai. Mais je veux vraiment aller là-bas. Et finalement, ça a payé. Et c'était autour du mois de fin juillet 2008 que j'ai eu la chance de partir là-bas pour un semestre extraordinaire. Je crois que ce qui m'a énormément attirée dans les images que j'avais googlées du Spitzberg, c'était une lumière. Et une lumière en fait qu'on n'a pas du tout ici. C'est cette lumière, et j'ai appris en lisant, c'est cette lumière qui revient après l'hiver polaire. Et en fait, tu peux avoir, 4 mois d'hiver polaire là-haut, il fait nuit noire 24 heures sur 24, et à partir de fin janvier, mi-février, le soleil revient. Quoi, t'imagines, c'est quand même un événement extraordinaire. Et ça crée une lumière, mais tu vois, rien que d'en parler, ça me redonne la chair de poule. Quoi. C'est une lumière que l'on n'a pas ici, une lumière pastel, où tu as des couleurs doré, rosé, un bleu infini, vraiment qu'on n'a jamais l'occasion de voir ici dans les Alpes. Et le tout qui recouvrait un paysage blanc, quoi, où il y avait de la neige de partout, des glaciers de partout. Et quand j'ai vu ça, j'étais hypnotisée par ces images. Et une fois que tu as ces images dans ta tête, personne ne peut te les enlever. Et c'est pour ça que j'ai tout fait pour y aller. Alors finalement, j'ai pu partir au Svalbard, même si ça a pris beaucoup de temps. Et l'avantage du Svalbard, c'est que c'est en fait une des régions les plus accessibles de l'Arctique. On imagine souvent l'Arctique comme étant un endroit hyper difficile d'accès, pas le Svalbard. Il suffit en quelque sorte de prendre l'avion. Et à l'époque, il y avait une seule compagnie d'avions qui allait, une seule compagnie aérienne, SAS. Et donc, il fallait que tu passes par Oslo, ensuite par Tromsø, qui est une ville au nord de la Norvège. Et ensuite, tu avais un dernier saut de puce qui prenait même pas une heure et demie, qui te faisait arriver à Longyearbyen, qui est la capitale en quelque sorte du Svalbard. C'est en gros une sorte de gros village où il y a tous les services administratifs du Svalbard. Quand j'ai posé les pieds sur le tarmac de Longyearbyen, du Svalbard, en fait, il était pratiquement minuit. Et il faisait jour. C'était dingue, c'était fin juillet, c'était pendant cette période de l'année où il fait jour 24 heures sur 24. Et déjà, rien que ça, c'était ultra perturbant, parce que ton cerveau ne comprend pas déjà où t'es et quelle heure il est. Et ensuite, j'ai eu de la chance parce que j'ai des futurs collègues de l'université qui sont venus me chercher en voiture et qui m'ont emmené jusqu'à mon logement. Et on a fait un petit parcours en voiture d'à peu près une demi-heure et on a traversé la ville. Et là, je veux dire, j'étais choquée, mais vraiment pas dans le bon sens. Moi qui avais tant rêvé de cette lumière, qui avais tant rêvé de ces espaces couverts de neige, de ces glaciers infinis, bah, c'était pas du tout ça. C'était un endroit tout sec, il y avait presque pas de neige. On aurait dit une sorte de hub industriel, de hub logistique avec des containers de partout. Tu voyais des tuyaux qui sortaient du sol, quoi. Je veux dire, j'ai pas du tout eu le coup de foudre quand je suis arrivée à Longyearbyen. J'étais plus choquée dans l'autre sens et en train de me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'ai débarqué au bon endroit? Donc c'était assez intéressant comme première expérience du Svalbard. La ville de Longyearbyen, il faut savoir que c'est la ville la plus au nord du monde. Donc quand on débarque là-bas, on débarque à un endroit qui doit être autosuffisant, pratiquement autosuffisant. Il faut qu'il y ait tout sur place. Mais aussi, on est dans un village, dans une ville qui est construite dans un territoire arctique. On est au cœur de l'Arctique. On est face à des conditions hyper difficiles. Donc c'est vrai que Longyearbyen n'a pas été construite pour des raisons esthétiques. C'est vraiment une ville qui est pratique. Donc c'est pour ça que quand tu commences à traverser la ville, la première chose que l'on remarque, c'est des containers un petit peu partout. C'est des scooters des neiges qui sont parsemés à droite à gauche, qui attendent que la neige revienne. Et c'est aussi des tuyaux qui sortent du sol, parce que ce sont des tuyaux qui transportent de l'eau chaude, qui transportent les eaux grises, les eaux noires. Et puisqu'ils transportent de l'eau liquide, ces tuyaux ne peuvent pas être dans le sol, parce que le sol, c'est du permafrost. C'est ce sol gelé en permanence. Donc si tu as des tuyaux qui sont un petit peu chauds dans le sol, ils risquent de faire fondre le permafrost, de déstabiliser tout ça. Donc finalement, à Langueurbienne, tout est sur pilotis. Toute la tuyauterie, toutes les maisons, tout est sur pilotis pour éviter de réchauffer le permafrost. Donc c'est vrai que nous qui n'avons pas l'habitude de ça, hein, moi qui viens des Alpes, quand j'ai remarqué cette architecture-là, évidemment, j'ai pas trouvé ça très beau. J'ai trouvé ça vraiment étonnant et ensuite j'ai compris à quoi ça servait. C'est vrai que j'ai eu de la chance, c'est que j'allais à Langueurbienne pour mes études. Et que dès le début du semestre, finalement, on nous force à faire du terrain. Il faut faire un maximum de terrain parce qu'on est un peu dans une course contre la montre. Là, je suis arrivée fin juillet, début août. Pratiquement 3 mois plus tard, il va faire nuit 24 heures sur 24. Donc très vite, les profs nous jettent sur le terrain et c'est là où enfin j'ai reconnecté avec le Svalbard que je cherchais, avec le Svalbard que j'attendais. C'est qu'on a passé 15 jours, ce qui est quand même fou, tu dis d'emmener des étudiants 15 jours sur le terrain, en bateau. Ensuite, on est parti camper pendant une semaine. Et là, c'était vraiment le choc total, parce que là, on travaillait sur des glaciers gigantesques, on grimpait des montagnes qui n'en finissaient plus. On était vraiment au milieu de nulle part. Loin derrière nous était Langueurbienne, et là, on était dans un environnement, dans ce qu'il y avait de plus sauvage, où tu comprends que c'est la nature qui domine absolument tout. Et c'était vraiment ça que j'étais venue chercher. C'était pas facile au début, mais vraiment, ça a été vraiment le coup de foudre pour moi pendant cette expédition-là, pendant ces premières semaines de terrain, où là, j'ai compris pourquoi j'étais au Svalbard.
D'où vient cette étrange attirance de ces régions polaires, si puissantes, si tenaces, qu'après en être revenu, on oublie les fatigues, morales et physiques, pour ne songer qu'à retourner vers elles. D'où vient le charme inouï de ces contrées pourtant désertes et terrifiantes? Est-ce le plaisir de l'inconnu, la griserie de la lutte et de l'effort pour y parvenir et y vivre, l'orgueil de tenter et de faire ce que d'autres ne font pas, la douceur d'être loin des petitesses et des mesquineries? Un peu de tout cela, mais autre chose aussi.
Si vous avez écouté les précédents épisodes de ce podcast, vous connaissez déjà cette citation du commandant Charcot, écrite en 1904. Cette étrange attirance, ce virus polaire comme on l'appelle, comme tous les invités des Givrés d'Épaule, Heidi est également atteinte de ce mal étrange.
Je crois qu'il m'a fallu à peine quelques jours ou quelques semaines tout au plus pour contracter ce virus polaire. Et c'est quelque chose dont je suis absolument pas guérie aujourd'hui, ça c'est certain. Il y a quelque chose d'assez particulier avec le Svalbard, et tous ceux qui ont eu la chance d'y aller le reconnaissent, et qu'il y a une énergie assez particulière. Même si de premier abord, ça peut paraître un endroit assez alien, quand on commence à passer du temps au Svalbard, il y a une énergie comme il n'y a nulle part ailleurs. Et très vite, en fait, même si on est dans un environnement hyper hostile, où la nature, tous les jours, te rappelle que c'est bien elle qui domine tout, bah finalement, tu te sens vraiment comme chez toi, très rapidement. Et c'est quelque chose que j'ai jamais eu l'occasion de retrouver nulle part ailleurs, même si j'ai parcouru le monde pour aller voir des glaciers ailleurs. C'est vraiment qu'au Svalbard, que dans cette partie du Haut-Arctique, que j'ai pu ressentir ça. Et il y a quelque chose qui m'avait titillé justement dès le début de ce semestre au Svalbard, c'est qu'une de mes profs, Maria Jensen, qui est encore à l'université aujourd'hui, qui nous avait dit que elle, la première fois qu'elle était allée au Svalbard, elle y était allée pour prendre des cours à l'université. C'était parmi les premières étudiantes de l'université, quand c'était à peine un tout petit bâtiment, et qu'ensuite, elle a passé toutes les années suivantes à tout faire pour retourner au Svalbard. Et elle était installée avec sa famille, elle avait un travail, elle habitait, elle était vraiment une résidente du Svalbard. Et je me suis dit, oulala, ça m'a l'air assez dangereux ce virus polaire. Et c'est ce qu'elle nous a dit, elle nous a dit, vous allez voir, tous tous dans cette salle de classe, vous allez vite attraper le virus polaire et vous allez voir, on n'en guérit pas. Et je suis complètement d'accord avec Maria. Et depuis cette expérience de 2008, je n'ai fait que retourner au Svalbard pratiquement chaque année pour y faire mon doctorat ensuite. Donc j'y habitais pendant 4 ans pour continuer à donner des cours à l'université, pour faire des expéditions. Et là, je m'apprête à y retourner pour y habiter dans quelques mois. Donc c'est clair que ce virus, j'ai pas vraiment envie d'en guérir, ouais.
En avril 2021, Heidi est repartie au Svalbard pour une expédition scientifique. Une expédition faite d'une équipe 100% féminine, ce qui n'est pas souvent le cas dans les domaines de la glaciologie ou de la climatologie, me précise-t-elle. Une expédition qui se voulait aussi la plus propre possible dans sa façon de faire de la science dans cette région du monde. L'objectif ? Étudier les dépôts de particules fines et leur impact sur la neige, la glace et la banquise, les calottes et les inland seas.
Ici, par exemple, en France, dès qu'on brûle des énergies fossiles, donc c'est-à-dire dès que je prends ma voiture, dès que je fais un feu de cheminée, dès qu'on brûle des énergies fossiles, ça va émettre de la fumée, ça va émettre de la pollution, ça va émettre de la suie. Cette suie, on peut la voir très vite en ville, par exemple. Si on regarde les bâtiments et qu'on passe le doigt sur un bâtiment, on voit que le doigt est couvert d'une petite pellicule noire. Cette petite pellicule, elle est faite de noir de carbone. Ce sont des particules qui sont ultra fines et qui peuvent soit retomber directement chez nous, soit qui peuvent se faire entraîner par les vents, par les courants atmosphériques. Et on se rend compte de plus en plus que des petites particules qui sont émises en Europe, en Asie, en Amérique, peuvent voyager en fait sur des milliers de kilomètres. Et parfois, des particules qui sont émises en Europe peuvent se retrouver jusque dans l'Arctique, entraînées encore une fois par les vents, par les courants atmosphériques. Et ce qui se passe, c'est lorsqu'il se met à neiger, par exemple, et la neige, en tombant, va entraîner avec elle ces petites particules noires, ces particules foncées, et elles vont se retrouver tout d'un coup plaquées au sol. Et on ne les voit pas forcément à l'œil nu quand on est sur le terrain, mais quand l'été va arriver et que la neige va disparaître, on n'aura plus de neige, mais il nous restera ces petites particules noires. Et année après année, moi je l'ai vu, chaque été où je vais au Svalbard, je remarque que les glaciers sont de plus en plus sales, ils sont de plus en plus noirs, et malheureusement, c'est pas bon pour les glaciers. On veut que les glaciers soient blancs, plus ils sont blancs, plus ils agissent un peu comme un miroir, ils vont réfléchir les rayons du soleil, plus ils sont noirs, plus ils vont absorber cette chaleur du soleil et fondre plus rapidement. Et aujourd'hui, on arrive à le mesurer, on sait que le Svalbard s'assombrit année après année à cause de cette pollution de l'air, et que à peu près 30% du réchauffement de l'Arctique s'explique par cette suie, qu'on appelle aussi black carbon ou noir de carbone, par cette suie qui se dépose sur les surfaces de neige et de glace. Et c'est vrai que c'est un problème gigantesque aujourd'hui de voir que l'Arctique est en train de fondre de plus en plus rapidement. Ça participe à tout un tas de conséquences qui nous touchent nous directement, dont la montée des eaux par exemple. Donc c'est vrai qu'une action chez nous, prendre la voiture, aussi bénin que ça puisse paraître, peut avoir une influence jusque dans l'Arctique. Et un Arctique qui fond nous rend l'appareil mille fois en créant des conséquences chez nous. Donc c'est ce qu'on est allé étudier avec ma petite équipe. Donc on a passé un mois sur cette expédition, sur le Svalbard. Et on n'a pas fait ça de façon traditionnelle. On a décidé de souffrir un peu plus peut-être. Plutôt que d'utiliser, des scooters des neiges, des hélicoptères ou des moyens de transport plutôt classiques pour des expéditions scientifiques, on a décidé de partir en ski, en tirant tout notre équipement scientifique derrière nous. Tout était mis dans une petite poulka. Et pendant un mois, on a fait à peu près 450 km et on a récolté une centaine d'échantillons de neige entre deux stations scientifiques. À la station de Nyalosund, et on espérait finir à la station de Ronsum, mais on a fini pas très loin. Donc voilà, on est très contente, ça n'a pas été facile, mais quel bonheur en tout cas de partir en expédition au milieu d'une pandémie, c'était un vrai privilège, ouais.
Coucou tout le monde, je voulais vous envoyer un dernier message avant de partir. On est sur le bateau, notre petit bateau qui va nous emmener à Nyalosund. Toute l'équipe est là, on a même les deux chiens à l'arrière du bateau qui font une autre ronche, ils sont pas très contents, mais bon, Tout va bien, pour l'instant, franchement génial. Ce matin, c'est hyper bien passé pour charger toutes les affaires. Voilà, hyper contente de partir, oh là là, enfin. Et puis, la dernière 4G avant d'être sur le terrain.
Pendant toute la durée de l'expédition, Heidi prend des photos et des vidéos régulièrement pour documenter cette aventure extraordinaire qu'elle partagera au retour sur ses réseaux sociaux et ceux de l'expédition, Climate Sentinels. Un moyen également de rendre compte, en son et en images, des conditions particulièrement difficiles auxquelles les jeunes femmes ont dû faire face.
Partir en expédition pendant un mois au Svalbard demande pas mal de préparation et pas mal de logistique. Et c'est vrai qu'on est dans un environnement qui est unique, qui peut être extrêmement hostile. Il faut s'imaginer que le Svalbard, c'est pas une terre plate déjà, c'est une terre extrêmement montagneuse. C'est un peu comme si on avait des Alpes au milieu de l'Arctique. Donc on a le danger, tous les dangers qui sont liés à la topographie, tous les dangers qui sont liés au fait qu'il y a de la neige, il peut y avoir des avalanches, il y a des glaciers, il peut y avoir des crevasses. Mais aussi, on est au cœur du royaume des ours polaires. On est là-bas chez eux. Il y a beaucoup d'ours polaires au Svalbard. Il peut y en avoir n'importe où. Que tu sois au sommet d'une montagne, sur un glacier extrêmement crevassé au milieu d'un fjord. Et c'est vrai qu'on n'a pas pris les choses à la légère. J'ai eu la chance vraiment d'avoir une équipe de dingue, déjà une équipe hyper entraînée qui connaissait le Svalbard par cœur. Et notre objectif, c'était de jamais se mettre en danger. Mais c'est bien beau de le dire avant de partir. C'est autre chose quand t'es sur le terrain et que finalement, c'est l'apocalypse autour de toi. Parce qu'il y a peut-être un élément qu'on avait un petit peu sous-estimé, c'était la météo. Et on est parti au mois d'avril 2021. Et généralement, le mois d'avril est caractérisé par un anticyclone, des conditions parfaites. Généralement, tu vois le ciel bleu pendant un mois. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et en fait, pendant tout le début de l'expédition, les 15 premiers jours, on a subi de loin les pires conditions météo que j'ai jamais eues au Svalbard. Donc, tempête après tempête après tempête. Et par-dessus ça, donc, par-dessus des vents hallucinants, des quantités de neige affolantes qui nous tombaient dessus, par-dessus ça, t'as encore le problème des ours polaires, le problème des avalanches et le problème des glaciers, le problème de la banquise. Donc c'est vrai que chaque jour amène son lot de challenges et chaque challenge doit vraiment être respecté à sa valeur. Et c'est ça que j'aime au Svalbard en fait, c'est que t'apprends que la nature gagnera toujours. Que toi, t'es là, il faut vraiment donner ton maximum, mais respecter l'environnement autour de toi. Parce que si tu fais un faux pas, t'inquiète pas que la nature très vite te rappelle à l'ordre.
Good morning everyone. So today we are the 8th of April. I'm not sure what day of the week we are. Maybe Thursday. And we've just spent two nights in this little cabin here because of a crazy storm that has just ended about an hour ago. So yeah, the conditions have been really challenging so far, to say the least. This is really atypical for the month of April.
C'était juste complètement fou ces conditions météo, et en fait, dès le premier jour, on s'est dit, ouais, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Il faisait pratiquement 5 degrés le premier jour où on a commencé, alors qu'on s'attendait à avoir entre moins 10 et moins 20. Il faisait très chaud. Beaucoup trop chaud pour le mois d'avril, et très vite, voilà, on a commencé à avoir des tempêtes de vent jusqu'à 140-150 km/h. Pratiquement tous les deux jours, on avait une énorme tempête qui nous tombait dessus. L'avantage, c'est qu'on avait en fait toute une équipe de l'université de météorologues qui nous envoyait ses prévisions météo. Et qui nous envoyait nos petites prévisions à chaque fois en nous disant « purée, je suis vraiment désolée, on comprend pas ce qui se passe ». C'est vraiment historiquement du jamais vu d'avoir des conditions pareilles au mois d'avril au Svalbard. Et en rentrant de l'expédition, on a pu justement débriefer en fait ce qui était en train de se passer. Et en fait, le phénomène est relativement simple à comprendre, c'est que l'Arctique, c'est un océan avant tout. Cet océan, il est entouré de terres, et le Svalbard, c'est une de ces terres. Et généralement, pendant l'hiver et encore pendant le mois d'avril, cet océan est en grande partie recouvert de banquises. Donc cette croûte de glace qui est présente de façon permanente sur l'océan glacial arctique. Mais si tu enlèves finalement une partie de cette banquise, ce qui est en train de se passer, la banquise, hein, on est en train de la perdre de plus en plus année après année, et bien finalement tu as de plus en plus d'océan qui est exposé. Par-dessus ça, tu rajoutes de l'air chaud, c'est ce qu'on avait. on a eu des températures positives une grande partie de l'expédition, et ben ça ramène énormément d'humidité, énormément d'énergie finalement dans ces paysages-là. Et c'est pour ça que tous les deux jours, on a eu une météo complètement perturbée, des vents et de la neige de dingue, et on n'en voyait vraiment pas le bout.
So it's a bit windy today. We're trying to get over Clone Passet. Definitely a bit windy.
Je peux te dire que dès le début de l'expédition, on s'est dit mais on va jamais la finir quoi cette expédition là, ça va devenir beaucoup trop dur. Et finalement, on a eu de la chance, mais petit à petit, les conditions sont presque retournées à la normale. Mais ce qu'on a subi, ces conditions complètement extrêmes, c'est directement lié au dérèglement climatique. On sait qu'aujourd'hui, le Svalbard, c'est l'endroit qui se réchauffe le plus vite sur Terre. L'Arctique se réchauffe 3 fois plus vite que le reste de la planète, ce qui est juste dingue, quoi. C'est vraiment difficile à comprendre. Et le Svalbard se réchauffe 6 à 7 fois plus rapidement que le reste de la planète. Donc on est vraiment dans l'épicentre du dérèglement climatique, et les scientifiques, ça fait des dizaines d'années qu'on dit que si le Svalbard continue à se réchauffer autant, si l'Arctique continue à se réchauffer autant, une des conséquences va être le fait qu'on aurait des conditions météorologiques complètement extrêmes, et franchement c'est ce qu'on a pris en pleine face pendant tout le début de l'expédition.
Vous venez d'écouter l'épisode 5 des Givrés d'épaule. Cet épisode a été réalisé par Auriane Laromiguière, avec la musique originale d'Hélène Lemay et les productions de Tuxedo Swing, et le mixage de Laurie Vachon. Un grand merci à Heidi Sevestre pour sa participation. On se retrouve très bientôt pour la seconde partie de cet entretien, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner à la page des Givrés d'épaule, le podcast sur les réseaux sociaux, et à parler autour de vous de l'importance des zones polaires. À bientôt!
D'écouter la première partie du 5e épisode de la série Les Givrés d'épaule réalisée par Auriane Laromiguière, Heidi Sevestre, Sentinelle du climat. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur jetfm.fr. Tout de suite après, retrouvez Chemin d'Afrique par Calomé. Bonne soirée sur JetFM.